VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h01 universel dans une dizaine de minutes, Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Mais tout d'abord, notre journal. La Centrafrique vit à nouveau un cycle de violences intercommunautaires. Fin octobre 2015, Bangui a connu de nouveaux affrontements, des violences qui se sont propagées jusqu'en province, l'ambiance étant particulièrement tendue dans les villes de Batangafo et Bambari. C'est dans ce climat permanent de violences entretenues par une forte criminalité que le pays se prépare à accueillir le pape François et à organiser une présidentielle et des législatives avant la fin de l'année. Le point avec Tatiana Mosso.
Il reste moins de 15 jours au service d'ordre pour résoudre le casse-tête sécuritaire. Le pape François est attendu les 29 et 30 novembre. La France a lancé un avertissement à peine voilé, disant que c'est une visite risquée au plan sécuritaire. Mais les autorités de la transition souhaitent la venue du souverain pontife. Les dirigeants politiques et religieux de la République centrafricaine cherchent à rassurer le Vatican sur la sécurité du pape avant sa visite. Une visite à la symbolique forte. Depuis décembre 2013, la population est victime d'un conflit entre les rebelles musulmans et des milices chrétiennes. Depuis fin septembre, les violences ont fait plusieurs dizaines de morts rien que dans la capitale Bangui. Le pays doit tenir des élections le mois prochain. Un responsable de l'ONU a déclaré que la mission de paix en Centrafrique prévoit d'ajouter 750 soldats et 140 policiers. Cette semaine, la France a déclaré qu'elle suspendait temporairement le retrait de ses troupes.
Crise burundaise, l'Union européenne affirme ce vendredi avoir décidé d'évacuer les familles et des personnels non essentiels du Burundi, après avoir évalué les risques, mais assure que sa délégation continuera de fonctionner normalement, Jacques Aristide.
Une évacuation partielle et temporaire, c'est du moins ce qu'ont indiqué à l'AFP deux responsables européens en évoquant une nouvelle évaluation des risques au Burundi, pays toujours en proie aux violences armées liées à la crise politique. Réaction similaire de la Belgique. L'ex-puissance coloniale a aujourd'hui recommandé à ses ressortissants de quitter le pays, faisant état des propos hostiles à la Belgique et des menaces à l'encontre des ressortissants belges. Au sujet de la résolution adoptée hier soir par le Conseil de sécurité de l'ONU, et le gouvernement et l'opposition burundais se sont dit satisfaits. Pour l'opposant Jérémy Minani, le régime de Bujumbura n'a rien compris à cette résolution qui le menace, dit-il, de sanctions et de l'envoi de casques bleus. Pour sa part, le ministre des Relations extérieures, Alain-Aimé Niamitwe, se dit agréablement surpris car le texte final, ajoute-t-il, est plus équilibré et ne brandit plus la menace de sanctions.
Au Tchad, dans l'affaire de l'ex-directeur général des douanes et droits indirects, trois avocats se constituent en collectif pour la défense de Salé Debi Itno, le frère cadet du président tchadien. De N'Djamena, les explications de notre correspondant André Kodmajingar.
Démis de ses fonctions le 23 octobre 2015 par un décret présidentiel, Salé Debi Itno a été arrêté et inculpé par le doyen des juges d'instruction au premier cabinet du chef de détournement des deniers publics et enrichissement illicite. Pendant que l'enquête se poursuit, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena, Al-Kassim Kamis, a dans une réquisition spéciale demandé au président de l'ordre des notaires du Tchad d'instruire tous les notaires du pays de n'imposer aucun acte de transfert des biens mobiliers ou immobiliers du mis en cause et de sursoir à toute opération de transfert de propriété en cours tendant à l'aliénation des 10 biens. Le collectif des avocats de l'ex-patron des douanes sort de son silence. Pour Maître Dieudonné Sana, leur client a été victime d'une cabale judiciaire.
Le procureur appelle ça des mesures conservatoires. Nous estimons que ces mesures sont illégales. Saisir les notaires par une réquisition pour dire que M. Salah Debi Itno ne doit pas procéder à des transferts de ses biens. Je crois que cette mesure est illégale et nous avons saisi le juge d'instruction. Le juge d'instruction doit se prononcer là-dessus.
Il réfute par ailleurs les allégations selon lesquelles leur client aurait ouvert un compte privé dans une banque de la place.
Les recettes douanières font partie des recettes du budget. Il revient à l'administration d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur ces recettes. Il ne revient pas au directeur général qui est chargé simplement de la gestion de ces recettes. Voilà pourquoi l'opinion nationale et internationale n'a pas eu l'information sur la gestion de ces fonds et ce qui a fait qu'il y a une forte rumeur qui a circulé selon laquelle c'est Salah Debi qui a ouvert un compte logé dans les livres de la CBT et il y puise comme il veut, il en dispose comme il veut. Je voudrais ici préciser que c'était courant mai 2012. Monsieur Christian Digimbay, ministre des Finances à l'époque, pour sécuriser les recettes douanières qui font l'objet de détournements entre la douane et le trésor, a estimé qu'il fallait ouvrir un compte bancaire pour sécuriser les recettes douanières. C'est ainsi que ce compte a été ouvert. Et dans la note de service, il est formellement dit que les autorités administratives habilitées à faire des opérations soit de retrait sur ce compte sont respectivement le ministre des Finances et le trésorier payeur général. Mais malheureusement, il se trouve que c'est un compte sans chèque. Donc c'est un compte de transit où on reçoit les recettes douanières et dans les 48 heures, on procède au transfert sur le compte de trésor public logé dans les livres de la BAC.
Pour des mesures sécuritaires, l'ex-directeur général des douanes Salaï Déby est gardé jusqu'aujourd'hui dans le locaux des renseignements généraux. André Kodouma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Niger, l'opposant à Mahamadou va rentrer demain à Niamey où il risque d'être arrêté. Monsieur Amadou, candidat à la présidentielle de 2016, est exilé en France depuis un an en raison d'accusations de trafic de bébés. Si un dossier a été monté contre moi par mes adversaires, c'est le moment pour moi de me présenter devant les juges pour qu'ils disent où se trouve la vérité, a souligné Ama Amadou, qui, comme je le disais à l'instant, vit en exil en France. Les autorités nigériennes ont déjà averti qu'elles arrêteraient l'opposant dès son retour au pays. Au sommet des leaders africains et européens à Malte, l'Union européenne a décidé de consacrer un programme d'aide de près de 2 milliards d'euros aux causes profondes des migrations africaines. Le plan porte notamment sur la création d'emplois et la prévention des conflits. Le président Macky Sall du Sénégal a jugé cette somme absolument insuffisante. Opinion partagée par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou.
Ce n'est pas suffisant. 1,8 milliard d'euros, c'est loin d'être suffisant. Les besoins sont énormes. C'est pour cela qu'on lance un appel à d'autres partenaires pour qu'ils participent à la mise en place de ce fonds fiduciaire.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou. La lutte contre le terrorisme maintenant. L'armée américaine a mené hier soir un raid aérien dans l'est de la Syrie visant Jihadi John, un Britannique du groupe État islamique, visible sur des vidéos où il exécute des otages occidentaux. La mort du bourreau n'a pas été confirmée, mais d'ores et déjà, les alliés renouvellent leur promesse d'en finir avec le groupe État islamique. Salwa Jafari.
We are still assessing the results of this strike.
Nous sommes toujours en train d'évaluer les résultats de cette attaque, mais les terroristes associés à Daesh doivent savoir ceci. Vos jours sont comptés et vous serez vaincus. Il n'y a pas d'avenir, il n'existe aucune issue pour Daesh qui ne mène pas à son élimination et à sa destruction.
C'était le secrétaire d'État américain John Kerry depuis Tunis. Selon le Pentagone, le bombardement a eu lieu à Raqqa, capitale de l'organisation qui occupe la moitié du territoire syrien. Selon la chaîne d'information CNN et le quotidien Washington Post, la cible avait été repérée il y a plusieurs jours par le renseignement américain. L'Observatoire syrien des droits de l'homme donne plus de détails. Jihadi John était dans une voiture en compagnie de 3 autres passagers. Le bourreau masqué, l'incarnation de la cruauté de Daesh, est citoyen britannique. Il a pris part aux vidéos montrant les meurtres de plusieurs otages. Mohamed Amouazi, de son vrai nom, était programmeur informatique. Il est né au Koweït en 1988 d'une famille d'origine irakienne.
Journée de deuil ce vendredi au Liban. Plus de 40 morts et près de 300 blessés. Tel a été le bilan d'un double attentat suicidaire dans un fief du Hezbollah au sud de Beyrouth. C'est l'une des attaques les plus sanglantes contre un bastion du Hezbollah libanais depuis la fin de la guerre civile libanaise. Une opération qui a été immédiatement revendiquée par l'EI, le groupe État islamique. Rappelons que des éléments du Hezbollah soutiennent les forces du président syrien Bachar Assad qui se battent contre les rebelles en Syrie, notamment les djihadistes de l'État islamique. Birmanie, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi a passé aujourd'hui la barre lui permettant d'être majoritaire au sein du Parlement birman, ce qui ouvre la voie à un changement de politique historique dans le pays. D'après les derniers résultats communiqués par la Commission électorale, la Ligue nationale pour la démocratie, LND, a remporté 348 sièges et sera donc majoritaire à l'Assemblée malgré la présence d'un quart de députés militaires non élus. Et enfin, le président Barack Obama a levé aujourd'hui hier les sanctions imposées contre l'ex-homme fort du Liberia, Charles Taylor, qui purge au Royaume-Uni une peine de 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Dans une lettre au responsable du Congrès américain, le président Obama a expliqué que ces sanctions étaient désormais inutiles en raison de la condamnation de Charles Taylor et de la capacité amoindrie de ses alliés pour saper les progrès du Liberia.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite,